Bonjour, c'est Dominique Rizet. Mathieu, 3 ans, est devenu orphelin en 2016, quand ses parents policiers se sont fait assassiner à Magnanville. Tout le monde s'en souvient. Pris en otage par un terroriste, le petit garçon doit son sauvetage à un autre Mathieu, Langlois, le médecin-chef du raid. Bonne écoute. Il faut vous souvenir que l'assaut de la maison du couple de policiers assassinés va durer 3 heures. Et pendant ces 3 heures, malgré tous les moyens d'écoute déployés par leur raid, la sonorisation des murs, les caméras filaires passées sous les portes, aucun signe de vie de l'enfant. Pas un bruit, pas un mouvement. Et le terroriste annonce sur Twitter qu'il a une surprise pour le groupe d'assaut. Le médecin-chef du raid craint le pire.
Clairement, quand j'entends ça, je pense évidemment à l'enfant. Ces mots-là, pour moi, résonnent fort en disant qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il a déjà fait ou qu'est-ce qu'il veut faire avec cet enfant.
Un policier poignardé devant son domicile. L'homme qui l'a tué s'est retranché dans le domicile du policier avec sa famille.
Le tueur a précisé avoir prêté allégeance 3 semaines plus tôt au commandant des croyants de l'État islamique qui demandait, je cite, de tuer des mécréants chez eux avec leur famille.
Le quartier est bouclé et à l'instant, on entend une explosion. Ça se situe sur ma gauche où le forcené est retranché. Alors que se passe-t-il exactement au moment où je vous parle? C'est encore évidemment trop tôt pour le dire.
Nous avons découvert le cadavre d'une femme. Heureusement, il y a un petit garçon qui se trouvait dans la maison, qui est sain et sauf.
Mathieu Langlois, c'est un gars du raid, c'est écrit sur sa combinaison. Grand, affûté, sec, crâne rasé, mais c'est avant tout et c'est surtout un médecin. Quelqu'un qui sait faire preuve de compassion. Je l'ai rencontré, c'est drôle, sur une table d'opération. Il était l'anesthésiste chargé de m'endormir quand on m'a refait les tendons des épaules. Je ne faisais pas le malin, c'est quelqu'un qui m'a rassuré. C'est quelqu'un qui sait rassurer les gens, qui sait parler. Il fait plus que le job, il ne s'arrête pas à sa fiche de poste. Le 13 juin 2016, il n'est d'ailleurs pas d'alerte, il prend tranquillement un verre dans un café.
J'étais informé sur les coups de 20h30 ou 21h par téléphone et par un espèce de beeper, déclenchement de l'alerte pour attaque terroriste dans le 78. On était en 2016, donc on venait de sortir de l'année 2015. On menait des opérations antiterroristes en permanence, donc c'était une procédure dont on était plus que familier. L'équipe d'alerte du raid est déclenchée, se prépare et est envoyée sur place. Quand j'ai assez vite compris la situation, moi j'ai quitté donc le café où j'étais et je suis allé directement avec ma voiture sur les lieux donc à Magnanville.
Avant qu'on continue, vous devez savoir que Mathieu n'est pas tout à fait un bleu, un rookie. Il était déjà médecin-chef du raid lors de l'assaut du Bataclan ou encore contre Mohamed Merah à Toulouse.
Je roule vite pour y aller. J'avais du matériel dans ma voiture. J'étais capable de m'équiper directement sur place avec tout mon matos. J'ai du matériel pour soigner, pour organiser, pour coordonner les secours. Et puis évidemment, une tenue qui est exactement la même que l'opérateur du raid. J'étais pas le seul d'abord à être appelé, hein. Il y avait aussi Jean-Michel Fauvergue par exemple qui était sur la route, le patron du raid, il y avait d'autres officiers pour monter un vrai poste de commandement. Quand j'arrive, alors c'est un petit peu malheureusement un défaut qu'on a à chaque fois, le point de rassemblement des moyens, comme on dit, c'est beaucoup de véhicules, pas forcément tous bien garés. Je me gare malheureusement moi aussi très mal, je sors de mon coffre mes affaires et je m'équipe sur le trottoir.
Tu vas vers cette maison qui se trouve au 10 allée des Perdrix, tu vois qui d'abord, tu parles avec qui et qu'est-ce qu'on te dit?
J'ai déjà eu des informations sur la route, j'ai déjà communiqué avec le médecin qui est arrivé un quart d'heure, 20 minutes avant moi, dont lui le rôle est clairement défini. Il y a une équipe d'urgence qui se met autour de la maison pour être prêt à intervenir s'il y avait éventuellement des signaux qu'il fallait intervenir en urgence. Le premier médecin qu'on va appeler médecin de pénétration, son rôle à ce moment-là, c'est de se mettre à distance de cette colonne d'urgence, mais suffisamment prêt et disponible si malheureusement malheureusement, il fallait intervenir de façon urgente, et qui dit urgente dit souvent violente.
Vous aurez compris, Mathieu, c'est un technicien. Quelqu'un qui, à partir d'une situation donnée, met sur place un plan, des procédures, une solution de repli, un pro, quoi.
Ça va être de faire le soutien immédiat de blessés pendant l'assaut ou découvert, si c'est l'otage ou le forcené, parce que ça nous est arrivé de nombreuses fois de traiter le forcené.
La maison est encerclée par des policiers du RAID, cette maison de Magnanville. Toi, tu arrives, tu as un médecin qui est déjà sur place. Est-ce que c'est toi qui prends la main ?
Je prends ce lead-là parce que je suis aussi le deuxième à arriver, donc j'ai un peu plus de recul. Et moi, donc, ma première mission, c'est d'aller au poste de commandement qui est en train de se monter et de faire la coordination sur l'aspect secours.
Il y a qui dans le poste de commandement ?
Il y a uniquement des opérateurs du RAID. En fait, on avait mis deux tentes, une tente pour le commandement opérationnel et une tente pour les autorités. Le préfet, le proc, on met le patron du RAID, par exemple, va souvent dans ce poste de...
Avec les autorités.
Avec les autorités. Le but, c'est d'avoir un sas entre les autorités qui sont d'un niveau stratégique et le poste de commandement où on est dans la tactique et on est vraiment sur la conduite des opérations. Et là, ça regarde que nous et surtout, il ne faut pas qu'il y ait de pression. Je vais dans l'attente, évidemment, de la conduite des opérations. Mon rôle, c'est d'organiser les secours entre la zone rouge de la maison et tout autour de la maison et les zones orange et verte, où là, on va retrouver les pompiers, le SAMU.
Cette information BFM TV de dernière minute. Un commandant de police a été tué tout à l'heure.
Pendant que Mathieu entre dans la tente du commandement des opérations...
Dominique Rizet, vous nous avez rejoint.
Moi, j'entre en plateau. Il travaillait dans un commissariat... pas dans une section antiterroriste. On se pose des questions sur et son agresseur et les motifs, les motivations.
Dire qu'on se parle tous les deux, donc c'est un peu un secret.
À ce moment-là, on sait qu'un commandant de police a été assassiné au 10 allée des Perdrix, à Magnanville, de 9 coups de couteau. Motivation du tueur, indéterminée, assaut imminent.
La seule certitude, moi, quand j'arrive, c'est oui, je croise donc le corps de l'homme par terre, donc le corps du policier abattu qui n'avait pas été déplacé, parce qu'après, il y a toute l'enquête judiciaire qui était donc là, sur le sol. En tant que médecin, je vois évidemment qu'il est mort. Il n'y a plus rien à faire. Mon rôle, il est ailleurs. On ne sait pas ce qu'il en est de la femme, de l'enfant. Il y a une opération à mener qui est une opération extrêmement dangereuse. On peut évidemment, nous, le risque, sinon on ne serait pas là, c'est qu'il y ait des blessés pendant l'assaut. Donc il y a toute cette anticipation de l'assaut que je vais planifier, que je vais organiser.
Essayez d'imaginer ce que ça leur fait à ces policiers du RAID. De préparer l'assaut tout en voyant le corps de leurs collègues face contre terre, dans la rue, et de ne pas pouvoir ne serait-ce que le couvrir ou le bouger. Et ça, c'est terrible. Mathieu, c'est impudique. C'est un peu un taiseux. Même si je le connais depuis longtemps, c'est pas facile de le faire parler. Surtout des secrets des groupes d'intervention. Bon, on n'a pas envie qu'ils nous disent tout, évidemment, mais on aimerait en savoir un petit peu. Mais il est discret. Il est discret, il reste uniquement dans une version technique de l'intervention.
Il y a une information par la négociation, si elle est possible, donc qui va se mettre en place. Et il y a une information aussi technique, par des moyens techniques, sur lequel, évidemment, tu imagineras bien que je ne vais pas t'en donner trop de détails, mais on a tout un tas d'outils. C'est souvent beaucoup plus compliqué qu'on ne croit, parce que le but, c'est de ne pas précipiter le terroriste à recommettre un meurtre ou à précipiter un assaut qui aurait des conséquences pour la vie des otages. On prend du temps pour essayer de mettre en place nos techniques d'intervention et pour que ce soit à notre avantage.
Alors moi, je vais dire des choses que tu ne peux pas dire et on ne va violer aucun secret. Le RAID écoute aux portes. Le RAID a des appareils style stéthoscope qui sont posés sur les portes pour entendre s'il y a du bruit à l'intérieur, si quelqu'un parle. Des petites caméras filaires qui se glissent sous les portes pour voir ce qui se passe à l'intérieur avec un tout petit objectif. Donc, à l'intérieur de la maison, il y a encore, on le sait, un signe de vie. Maintenant, vous avez des informations. Ce n'est pas un voisin énervé qui est entré dans cette maison. Ce n'est pas un type, un braqueur qui est venu se réfugier dans cette maison. C'est un terroriste qui est dans la maison, on le sait. Il a commencé à envoyer des messages sur les réseaux sociaux. Il a écrit sur les réseaux sociaux qu'il avait tué un policier, qu'il était dans la maison, qu'il y avait une femme. À un moment, il va écrire qu'il a tué la femme.
Ouais.
Et il écrit qu'il ne sait pas ce qu'il va faire de l'enfant.
Et surtout, il dit qu'il a une surprise si le raid rentre, ce qui ne nous réjouissait pas du tout.
Ça peut être quoi la surprise?
Ça peut être de nous tirer dessus, ça peut être de l'explosif, ça peut être un piège. Mais tout ça, c'est ce que le raid maîtrise parfaitement. Après, moi, clairement, quand j'entends ça, je pense évidemment à l'enfant. Ces mots-là, pour moi, résonnent fort en disant qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il a déjà fait ou qu'est-ce qu'il veut faire avec cet enfant. On est tous pères de famille. Ma première pensée, elle va à malheureusement à un scénario avec l'enfant. Plus que l'explo, ou entre guillemets, qui humainement me fait moins peur pour l'organisation des secours de l'enfant. Évidemment, moi, ça a une incidence directe. C'est que je fais une coordination avec le commandant des opérations de secours, qui est donc un officier sapeur-pompier. Et donc là, clairement, on identifie ça comme une priorité, c'est-à-dire un enfant gravement blessé qu'il faudrait évacuer vers des hôpitaux qui sont capables de prendre des urgences pédiatriques. Et donc, il y a toute une planification de la prise en charge d'un enfant gravement blessé par coup de couteau.
À 21h09... le forcené a annoncé au policier de la BAC qu'il avait tué la femme avant l'arrivée du raid. Il a tweeté la photo avant l'assaut, c'est ce qu'il dit. Il a prononcé cette phrase au policier: « Vous êtes venu chez nous, on vient chez vous. » Sous-entendu, vous êtes venu chez nous en Syrie, on vient chez vous ici en France.
À ce moment-là, nous, c'est une prise d'otage à caractère terroriste. On sait qu'on est entraîné pour ça, on est les meilleurs pour ça, on a l'expérience pour ça, et qu'on va répondre à la situation. Voilà, voilà notre état d'esprit, quelle que soit la situation, quelles que soient les émotions. Évidemment, il y a tout un temps de préparation à l'assaut, qui est un temps qu'on va mettre en œuvre pour préparer les évacuations, dire aux pompiers où est-ce qu'il faut qu'ils soient. Voilà, on leur donnait aussi des informations sur ce qu'on pouvait leur donner. On avait mis en place un hélicoptère qui était prépositionné pour pouvoir évacuer l'enfant ou un autre blessé grave vers un hôpital parisien. Tout ça, c'était déjà prêt et organisé. Et il y a un acteur qui a été majeur pour moi et dans la façon dont on va libérer cet enfant. C'est un policier de la BAC des Mureaux qui était un ami de la famille et qui connaissait cet enfant. Et donc, était un des premiers à venir sur les lieux parce que, évidemment, c'était son collègue, son copain, son ami qui venait de se faire assassiner. Il a été d'une utilité incroyable. Il est venu dans notre poste de commandement. Il a passé quasiment les 2 heures avec nous dans le poste de commandement. Je ne sais même plus son prénom, je sais qu'on l'appelait Canard. Son pseudo police, c'était Canard. Donc moi, j'ai gardé Canard. Il ne ressemblait pas du tout à un canard.
Canard, si tu nous entends, pardon de ne pouvoir te citer parce que, franchement, il fallait un courage exceptionnel pour s'impliquer, comme tu l'as fait, dans les opérations, après avoir perdu un couple d'amis proches, sachant que leur petit garçon Mathieu, que tu connaissais tellement bien, était à l'intérieur de cette maison. Ce que tu as fait est vraiment hors du commun.
Tout de suite, on lui donne tous un rôle important dans la compréhension, dans ce qu'on voulait essayer de comprendre de ce qui se passait ou ce qu'on pouvait rencontrer à l'intérieur. Alors l'aspect connaissance des plans de la maison, moi, il m'a aidé à essayer de comprendre ce qui se comprenait de la situation par rapport en particulier à cet enfant. Parce que pendant ces 2 heures, on n'a aucun signal de vie de la part de l'enfant. Il n'y a pas eu de son. Il n'y a pas eu de mouvement.
Tu es avec Canard, et Canard, il te parle de cette famille. Qu'est-ce qu'il te dit ?
Il est en même temps en train de réaliser qu'il a perdu son pote, sa copine aussi, parce qu'il était vraiment pote de la famille. Mais il est hyper pro, il est au service du raid. Et son rôle, c'est l'idée qu'on a eue avec Jean-Michel Fauvergue, patron du raid, avec le commandant des opérations. Si, au moment de l'assaut, de la libération, on ne sait pas ce qu'on va trouver, il y a 3 solutions. L'enfant est malheureusement mort, décédé. Deuxième cas de figure, l'enfant est blessé pendant l'assaut. Et troisième cas de figure, l'enfant est vivant, pas blessé. Et donc, en fonction de ces 3 cas de figure, on construit 3 types de réponses qu'on organise. Si l'enfant est mort, c'est malheureusement l'organisation la plus simple. Si l'enfant est gravement blessé, c'est le médecin du raid en pénétration qui le prendra en charge. Si l'enfant et en revanche, pas blessé. Dans ce cas-là, c'est Canard qui va être le premier à le prendre dans ses bras. Parce que c'est, pour moi, humainement, c'était capital que cet enfant qui venait de vivre un enfer absolu, qui avait probablement vu sa mère se faire égorger. Je suis habitué à la victime qui subit un traumatisme et qui est dans le traumatisme. Et moi, mon rôle, c'est justement de la sortir, à la fois de la traiter sur le plan des blessures, mais aussi de la traiter humainement et psychologiquement pour la sortir de ce trauma et la mettre en sécurité, y compris sur le plan psychologique. Et donc là, je m'étais dit, pour ce petit enfant qui a un traumatisme d'une violence inimaginable, la meilleure chose que je peux proposer au tout début, c'est que ce soit ce canard qu'il connaît. Le lien à ce moment-là, le plus rapide à mettre en place, c'est entre canard et cet enfant. Ça, c'était l'initiative qu'on a prise, qui était très impliquante aussi pour ce policier, parce que ça voulait dire rentrer dans la maison, ça voulait dire voir aussi le corps de Jessica. Pas simple. Mais c'était, je suis certain maintenant que c'était son rôle, et il l'a fait merveilleusement bien.
Il faut savoir que Mathieu est un père de famille. Il sait l'importance que ça a pour un petit garçon de cet âge-là, hein, d'être réconforté, d'être pris dans les bras de quelqu'un qu'il connaît et que ça sera capital pour la suite de sa vie, pour le sortir de son traumatisme. Toi, tu as le souvenir de ce qui se dit dans cette tente et puis il y a Canard qui entend ça. Canard, il entend tout.
Honnêtement, il a été remarquable. On était tous un peu dans le même doute. C'est l'enfant, on n'a aucune certitude.
Un gosse de 3 ans qui est pris en otage dans une maison par un terroriste qui a vu peut-être, sans doute, sa mère mourir. Est-ce que c'est possible qu'il se taise ? Est-ce que c'est possible que ce gamin de 3 ans soit pas en train de pleurer ? Donc si vous n'entendez rien, alors, si t'entends rien, c'est qu'il
est enfant,
mort.
Un enfant, c'était évidemment, on était très inquiets. Je te cache pas qu'on était quand même très inquiets et pessimistes. Et puis surtout, il y avait le message qui disait « j'ai une surprise pour vous ».
Ça pouvait être l'enfant tué.
Exactement. Mais il y a aussi, il faut savoir, c'est ce qu'on appelle les états de sidération. Et on sait que le cerveau, et en particulier le cerveau d'un enfant traumatisé, peut justement se mettre en état de sidération. Et là, ça peut expliquer le mutisme complet, le fait d'avoir un silence total de l'enfant qui ne bouge pas, qui ne parle pas pendant 2 heures.
La décision est prise, ça va rentrer, il faut y aller. Tu t'en souviens de ce moment-là ?
Donc le moment où le porte-parole est en train de faire un point presse en direct, l'assaut est donné. La priorité, c'est neutraliser le terroriste avant de s'occuper des otages. Quand il rentre, donc il y a des diversions. Il est dans l'escalier en train de descendre vers la colonne d'assaut. Et à ce moment-là, commence à remonter pour éventuellement pouvoir s'en prendre à l'enfant. Et c'est là qu'il est abattu. Donc il est abattu dans l'escalier à mi-chemin entre en bas où il y avait le corps de la maman et en haut où il y avait l'enfant. Ils sont 4 à rentrer et donc ils sont 2 à neutraliser. Il y a un certain nombre d'impacts, touche la cible, c'est-à-dire le terroriste. Et donc il est neutralisé dans l'escalier, sous les yeux évidemment du petit Mathieu. S'il voit quelque chose, c'est pour ça qu'on avait anticipé, parce que s'il voit quelque chose, il voit aussi des hommes en noir tirer, tuer. Et encore une fois, la mort, la notion de mort, la réalité, il y a une déréalisation pour un enfant de 3 ans par rapport à ce qui se passe. Mais néanmoins, c'est pour ça qu'on tenait absolument à ce que ce soit Canard qui le prenne dans ses bras. Canard qui était habillé en civil et qui était un visage qu'il connaissait. Et qui était un opérateur du raid qui en plus venait de tirer. Ou un médecin du raid en noir avec une cagoule n'était pas la bonne personne pour le prendre en charge.
Ce qui est extrêmement rare dans cette affaire, c'est que l'assaut a été donné au moment même où le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Pierre-Henri Brandet, parlait face aux caméras de télévision. Tout ça en direct. Hein. Moi, j'étais en plateau, à BFM, et Mathieu, lui, était dans la tente de commandement.
Le terroriste est neutralisé. Ça, je l'apprends assez vite, même très vite. Et après, quelques secondes ou quelques minutes, c'est quelques secondes plus tard, les opérateurs donc, montent au niveau de la mezzanine où était l'enfant et donc découvrent l'enfant sur une banquette avec une table et 2 couteaux sur la table. Et la télé, je crois, a été allumée. L'enfant est vivant et va être libéré. Donc, Tu imagines le soulagement, je pense en particulier donc aux trois opérateurs ou quatre opérateurs qui sont montés dans l'escalier pour libérer cet enfant et qui sont les premiers à voir que l'enfant est vivant. J'imagine la satisfaction pour eux que ça devait être. Et donc nous derrière, évidemment, on est à la fois très fiers de cette libération et profondément soulagés. Donc les couteaux sont mis de côté dès qu'entre guillemets la zone est sécurisée, mais à minima, on fait rentrer Canard qui va prendre le petit Mathieu. J'attendais ce moment avec impatience. À ce moment-là, je vois que c'est une petite tête blonde. Canard qui est quand même un costaud, tu vois, donc t'as un petit enfant, il faut imaginer un petit enfant de 3 ans. L'ambiance, elle est surtout à sortir vite fait de cet enfer. Il y a le corps en bas de l'escalier de la maman, partiellement recouvert par des opérateurs qui avaient trouvé, je crois, une couverture ou un truc comme ça, avant la descente de l'enfant.
Pour que le gosse ne voit pas le corps de sa mère.
Exactement. J'accompagne avec un autre opérateur, on accompagne le canard et l'enfant jusqu'au brancard et ensuite l'ambulance.
Mais qui est-ce qui va le regarder, voir s'il n'a pas une blessure ?
Nous, on a fait un premier check.
Pas visible.
Bah, vu la taille des couteaux et la taille de l'enfant, si tu veux, la blessure, on l'aurait vue vite.
Tu penses qu'il avait l'intention de le tuer ou pas ? C'est quoi ce dispositif ? Le canapé, la table basse, les deux couteaux ?
Évidemment qu'il avait la possibilité de le tuer. On l'a évidemment redouté et on était ô combien soulagés et heureux de ce dénouement.
Il est sur le brancard, il va bien ? Il parle, tu t'en souviens,
non,
il pleure.
Non, il pleure pas, il parle pas. C'est pour ça que je demande d'ailleurs qu'on accélère pour le mettre au chaud dans une ambulance, loin de l'agitation. Ils vont avec toujours, évidemment, en contact avec Canard. Ils rentrent dans l'ambulance donc avec Canard. À ce moment-là, moi, je décide d'aller me... Parce qu'il faut savoir qu'on a quand même 30 kilos sur le dos. Quand je te dis qu'il y a une vraie libération, un vrai soulagement, c'est la vérité. Et puis physiquement, je suis très content d'aller enlever mon gilet, mes affaires. Donc je vais remettre tout ça dans ma voiture. Et après, je retourne dans l'ambulance du SAMU où j'ouvre la porte arrière. Là-bas, il y a une médecin qui me dit que je ne peux pas rentrer. Je lui dis, quoi, ça m'étonnerait. Et donc là, il y a le petit Mathieu, Canard, et moi, debout sur le marchepied. Pour moi, c'est un moment incroyable. On est passé de l'enfer, du stress, d'une vraie tension extrême, au soulagement total qui a été incarné pour moi par la tête de cet enfant qui, encore une fois, avait vu le pire qu'on puisse imaginer pour un enfant de cet âge. C'était une petite tête blonde avec un vrai sourire. Et en particulier parce que je pense qu'il était aussi avec Canard, qui était magique à ce moment-là, qui arrivait, on le sait, dans la prise en charge du traumatisme aigu. L'importance, il faut trouver le moyen de surtout pas être dans l'émotion, plutôt dans du cognitif, dans remettre du réel.
Il comprenait pas ce qui se passait, le gosse ?
Ah bah, il y a une déréalisation, ça on le sait, mais encore une fois, là on est dans la phase ultra aiguë. Moi je veux pas me projeter sur l'après, sur le psychotrauma, sur...
Qu'est-ce que tu lui as dit, toi, à cette enfance ce soir-là ?
Eh bah, ben en fait, c'était un discours à deux avec Canard. Le petit Mathieu était juste à nous regarder et à nous faire des sourires. Ça a été un jeu de ping-pong. Canard a dit, il s'appelle Mathieu, comme toi.
En te montrant.
En me montrant. Il a dit, il y a le grand Mathieu et le petit Mathieu, tu vois. Et alors là, évidemment, t'imagines le sourire d'un enfant. Un enfant de 3 ans n'a pas les mêmes émotions que nous, n'a pas le même sens au réel que nous. La mort ne veut pas dire la même chose.
Ouais, on a bien, ouais.
Ça, c'est évident. Mais ce visage, honnêtement, était... ont passé du pire de l'humanité au meilleur.
De la mort à la vie.
Canard a dit, tu vois, quand tu seras grand, tu seras médecin du RAID. Il ne sait pas ce que c'est que le RAID. Hein, faut juste remettre... Je pense que ça me faisait plaisir d'abord à moi, clairement. Lui, il souriait. Ces moments-là, pour moi, clairement, ils étaient magiques. Je ne sais pas pour lui, et ça, faudrait demander à des gens qui l'ont suivi après. Mais c'est sûr que de lui dire, tu seras médecin du RAID quand tu seras plus grand... Je suis sûr qu'il n'a rien compris. Moi, je peux te garantir que ça m'a fait un plaisir, mais incroyable. Ce sourire, je le garde comme un remerciement pour beaucoup plus que juste cette intervention de Magnanville. La gratitude ou la valorisation de ce qu'on fait, pour moi, ce sourire de cet enfant résume tout. On l'a vu une fois, il est venu au RAID, et la première fois, on est allé avec des patrons, des officiers, le voir à l'orphelinat. Je ne sais pas comment il en parlera, mais enfin, sa vie, ce n'est pas le RAID, bien au contraire.
Le RAID a quand même certainement changé sa vie, parce que vous n'auriez pas été là ce soir-là, ça serait peut-être très mal terminé pour lui. Donc le raid, c'est quand même un passage important de sa vie, même si ce n'est pas sa vie.
Il a besoin de savoir ce qui s'est passé cette nuit-là, mais sa vie, c'est, j'espère, pas cette nuit-là.
Et quand il est venu, il était avec qui ?
Il était avec ses grands-parents, si ma mémoire est bonne.
C'est eux qui l'ont récupéré, ouais. Il vit avec ses grands-parents.
Ouais. En général, j'essaie d'être un peu en retrait dans ce genre de moment. Parce que là aussi, on en revient aux émotions. On a chacun nos histoires, on a chacun nos émotions. On a... Moi, j'aime bien vivre de manière assez intérieure mes émotions.
Il a 9 ans aujourd'hui.
Ouais.
T'imagines que dans 10 ans, ton téléphone sonne et t'as entendu une voix qui te dise « Bonjour, je suis Mathieu, Magnanville, c'était moi. J'aimerais bien qu'on en parle, qu'on se rencontre. »
Mais je serai là pour en parler. J'ai aucun tabou, mais j'ai pas besoin, moi, de les voir. Et j'espère surtout qu'ils n'ont pas envie de me voir. Ce que je veux dire, des vies brisées, il y en a plein. Évidemment que si le petit Mathieu, un jour, veut me rencontrer, je le rencontrerai avec plaisir. Mais je crois fondamentalement que sa vie est ailleurs.
Pourquoi est-ce qu'on a demandé à Mathieu Langlois de nous raconter cette histoire-là et pas une autre ? Il en a 15 000 à nous raconter. Il était dans la fosse du Bataclan avec le groupe d'intervention. Il était à Toulouse sur l'intervention Mera. Il est allé sur toutes les grandes attaques terroristes de ces derniers temps, sur des forcenés, sur... les plus grosses opérations du raid. Pourquoi celle-là ? Parce que quand on discute, quand on est assis autour d'une table et qu'on boit un verre, quand il lui est arrivé de raconter Magnanville, il y a de l'émotion, une émotion qui n'est pas la même que quand il nous raconte les autres histoires. Parce que le rescapé, il y en a un seul, c'est un enfant de 3 ans. Parce que cet enfant de 3 ans, ce soir-là, il a tout perdu. Parce qu'il a échappé au pire. Il y a un miracle qui, ce soir-là, s'est produit. Un miracle qui a fait que Mathieu vit encore, malgré l'horreur de ce qui s'est passé dans la maison de ses parents. Et quand Mathieu Langlois, quand le médecin du raid parle de cette histoire, il y a tellement d'émotions dans sa voix qu'en fait, il se réfugie derrière des termes techniques parce que il a du mal à se laisser aller, à laisser parler son émotion. Un médecin, ça doit être blindé. Un médecin, ça doit pas montrer sa faiblesse qui est de pleurer comme on pleure tous, parce qu'on est faible, tous, mais pas lui. Un médecin, ça doit pas être comme ça, surtout le médecin du raid. Donc il nous parle de termes techniques, j'ai fait ci, j'ai fait ça, le PC opérationnel, mon boulot, moi c'est pas... Et en fait, tout ça, c'est pour cacher ce qu'il n'arrive pas à dire. Et on espère que vous aussi, vous aurez réussi, en écoutant le récit de Mathieu, à lire entre les lignes et à recevoir cette émotion comme nous, les non-techniciens, les non-médecins du raid, comme nous tous, on la ressent, cette histoire du petit Mathieu.
Vous venez d'écouter L'Instant Où, un podcast BFM TV incarné par Dominique Rizet. Réalisation Yves Pulici. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de cette série sur le site et l'application BFM TV et toutes les plateformes d'écoute.